toutes et à tous. Un nouvel épisode de En revenant de l'Expo sur l'antenne de Radio FM+. Alors pour ceux qui n'auraient jamais écouté, mais il peut encore y en avoir, parce que je crois que c'est là, on est dans les 10 premières émissions encore. Hein. En revenant de l'Expo, ben, c'est un principe très simple. Nous donnons la parole à tous les acteurs qui, de près ou de loin, consacrent une grande partie de leur temps à la création, à la diffusion des arts plastiques et des objets d'art. Et justement, si je parle d'objets d'art aujourd'hui, c'est pas tout à fait par hasard. Donc, ils nous racontent un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait dans leur vie, comment leur rapport à l'art s'est construit. Et c'est la question que nous allons poser aujourd'hui, ou les questions que nous allons poser aujourd'hui, à Jacques Farran, qui est commissaire priseur. Yann est à la technique, il nous accompagne tout au long de cette heure. Bonjour Jacques Farran.
Bonjour à tous. Bonjour Maria, merci beaucoup pour votre invitation.
Mais
je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
C'est un très grand plaisir. Alors, on va se faire plaisir justement, parce que nous allons suivre finalement les coulisses d'un métier dont on pense savoir beaucoup de choses et dont on ne sait en réalité pas grand-chose. Déjà, on va prendre un petit peu de temps pour faire un point de droit concernant ce qu'est le commissaire priseur, qui n'est plus commissaire priseur, mais commissaire de justice. J'ai l'impression que c'est assez récent, ça.
Absolument. C'est une loi de 2022 qui est une loi Macron. Mais en fait, la réunion des huissiers de justice et des commissaires priseurs est très ancienne, puisqu'elle date du 16e siècle. Les premiers commissaires priseurs étaient aussi huissiers. Mais depuis, il s'est passé pas mal de temps et les métiers s'étaient séparés. Alors, moi, je ne suis pas vraiment commissaire de justice, je suis encore commissaire priseur, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a deux sortes de ventes aux enchères. La première vente aux enchères, c'est celle que tout le monde connaît, c'est la vente aux enchères qu'on appelle volontaire. Vous avez un tableau, vous voulez en connaître l'histoire, vous voulez en connaître la valeur, vous l'apportez à un commissaire priseur pour qu'il le mette dans la lumière et qu'il le vende aux enchères. C'est le travail que je fais. Et ensuite, il y a la vente aux enchères qu'on appelle judiciaire, forcée. Lorsqu'une entreprise est placée en liquidation, en redressement judiciaire, on va vendre ses actifs pour éponger ses dettes. Alors, c'est une vente complètement différente. On ne vend pas du tout le même genre d'objet, plutôt du matériel, des véhicules. Et donc, ces deux professions ont été réunies. Pour notre part, nous sommes diplômés, donc commissaires de justice et commissaires priseurs, mais nous sommes les seuls dans la région à ne pratiquer que la partie volontaire de l'activité, qui est la partie que l'on préfère. Alors, je critique pas du tout le métier de commissaire-priseur judiciaire, et c'est un métier qui est très intéressant, contrairement à ce qu'on peut croire, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile de se maintenir à niveau à la fois sur la partie artistique de la profession et sur la
patrimoniale,
les œuvres d'art, et pour le matériel professionnel qui demande des compétences un petit peu différentes.
Alors, ça tombe bien que vous me disiez ça, parce qu'effectivement, j'allais vous dire, mais c'est vrai que les huissiers, malheureusement, n'ont pas une très bonne réputation dans l'inconscient collectif. Alors que les commissaires priseurs, il y a une sorte de, voilà, enfin, on sait que c'est des gens qui travaillent avec l'art, avec les objets, etc. Et ce que vous venez de nous expliquer, finalement, ça répond à la question que j'allais vous poser. C'est vrai que c'est un peu antinomique, mais donc finalement, pas tant
alors,
que ça.
Voilà, ça a été, il faut savoir que les commissaires priseurs volontaires, on est 600 en France à être diplômés. Donc, on n'est pas la première priorité de l'État, hein, et on subit toujours des bouleversements législatifs importants. Mais le métier de commissaire priseur existe encore, et c'est celui que je pratique.
Alors, ce métier a une déontologie, parce que, évidemment, on a aussi le sentiment que le commissaire-priseur, de temps en temps, voit passer de très belles choses, quand on parle de parties patrimoniales ou d'objets d'art, et achète, pour son propre compte, des choses, ou se débrouille pour obtenir des choses dont il aimerait avoir la possession.
Alors c'est strictement interdit, et ce qu'on peut tout à fait comprendre, parce que on peut pas être à la fois juge et partie. Nous, on est là avant tout pour défendre l'intérêt des clients qui nous font confiance, pour transmettre les œuvres d'art qu'ils ont, et donc on est à la fois un interlocuteur transparent avec le vendeur, parce qu'évidemment on peut pas lui cacher les défauts que pourrait avoir l'œuvre, mais il est strictement interdit d'acheter et de vendre dans ses propres ventes aux enchères. On a néanmoins le droit d'acheter dans les ventes aux enchères de ses confrères. Ça, c'est tout à fait autorisé. Mais la tentation est, comme vous dites, est grande, mais oui et non, parce que, si vous voulez, on a la chance dans notre métier d'être toujours entouré d'œuvres d'art de grande qualité. Et je vais vous dire autre chose. Les œuvres d'art, elles nous appartiennent un petit peu quand on les découvrent, quand on les redécouvre, moi j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu à moi, si vous voulez. Là, on a eu la chance l'année dernière de découvrir un carnet de dessins d'un artiste qui s'appelle Frédéric Pesson, qui était le plus grand artiste sourd et muet du milieu du 19e siècle, montpelliérain. Il y a une rue à Montpellier qui porte son nom. Donc on a fait des recherches. C'est un artiste qui était très riche. Alors il avait pas besoin de vendre ses œuvres pour vivre. C'est un artiste assez rare. Et quand on a découvert ce carnet à dessins, on a communiqué auprès des associations malentendants de Montpellier. On a appelé le Midi Livre et ce carnet à dessins, il a été acheté par le Musée Fabre, qui en ce moment même l'expose dans une salle dédiée à l'article Frédéric Pesson. Il est dans une grande vitrine. C'est le carnet à dessins. Alors évidemment, il appartient pas. Il appartient à tous ceux qui veulent bien le voir. Mais moi, je trouve qu'il est un petit peu à moi.
Donc je rappelle encore une fois, on avait fait une émission, la toute première, sur le Musée Fabre, en disant que c'était vraiment un endroit dans lequel on pouvait rentrer de façon extrêmement libre, qu'il y a beaucoup de tarifs préférentiels pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, pour les jeunes, pour les gens plus âgés, etc. Et vraiment, c'est un endroit où il faut aller parce qu'on peut y passer un temps fou et même plusieurs semaines, pas forcément d'affilée. Il y a toujours quelque chose à découvrir dans les collections permanentes, parce qu'il y a aussi des collections ponctuelles.
Un musée exceptionnel, probablement avec Rouen quand même, parce qu'à Rouen, il y a un Velázquez et un Caravage, alors c'est difficile quand même. Alors,
voilà le Montpellier.
Ça fait l'unanimité d'un point de vue national, le musée Fabre est un musée exceptionnel.
Alors, pour tout dire, parce qu'on va revenir un petit peu sur vous, je vois que vous êtes pressé de me parler des objets, mais on va prendre du temps pour le faire, parce que ça vous passionne. Pour tout dire, vous n'êtes pas le fils d'un commissaire-priseur.
Non, je suis comme mon associé, on est tous les deux enfants de médecins, donc qui aimaient beaucoup l'art, qui m'ont beaucoup amené dans les musées, en vente aux enchères, mais j'étais pas du sérail, si vous voulez.
Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu dérangeante. Bon, fils de médecin qui devient commissaire-priseur, fils d'avocat qui devient pharmacien, fils de notaire qui devient notaire. Est-ce que dans les études que vous avez faites, vous avez pu rencontrer des gens qui venaient de milieux beaucoup plus modestes, qui n'avaient pas forcément une culture, justement, patrimoniale ou artistique, qui voulaient faire ce métier, qui ont réussi à le faire?
Oui, il y en a quand même aujourd'hui un certain nombre. Évidemment, il y a la profession la plus représentée, c'est commissaire-priseur, hein, parmi les parents de
commissaire-priseur qui viennent commissaire-priseur.
Parce que ça, c'est un métier où les études sont quand même assez longues et c'est un métier qui est assez méconnu. Il faut avoir la chance de le connaître. Mais c'est surtout un métier qui valorise la curiosité. Et la curiosité, on l'acquiert pas en venant de tel ou tel milieu. Je pense que c'est complètement indépendant. Donc oui, c'est beaucoup plus ouvert que par le passé.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand nous avons préparé l'émission, vous m'avez dit, mais vous savez, entre commissaire-priseur et médecin, généraliste en tout cas, il y a un lien. C'est quand vous faites tomber une très grosse culture sur un pied, non,
c'est le côté, on aime bien faire ce parallèle de médecin généraliste des objets, si vous le voulez. Il y a les médecins spécialistes. Nous, on est très spécialisés au niveau du droit, puisqu'on a une connaissance très précise du droit des plus-values, des droits de suite.
Il y a de longues et puissantes études de droit pour accéder à ce métier.
Et qui sont très resserrées autour d'un certain domaine. Alors que pour l'histoire de l'art, on peut être confronté à un rafale, à une poupée ancienne, à un
tableau.
Voilà, l'éventail est extrêmement large. Et là, on doit essayer d'avoir, si vous voulez, une culture générale qui nous permette d'identifier l'intérêt de n'importe quel type d'objet.
Ce qui vaut la peine d'être expertisé par, effectivement, un expert.
Par nous ou par un expert spécialisé dans un domaine très spécifique.
Alors, vous m'avez parlé, alors on va faire très vite et très simple si c'est possible, c'est pas toujours facile de faire ça. D'Eros et de Thanatos, de l'amour, la mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que vous me dites, c'est aussi lié par ça, le médecin et commissaire-priseur, c'est lié aussi par l'amour et la mort.
Ah ben, il y a beaucoup de... Les médecins sont souvent de grands collectionneurs. C'est vrai qu'il y a ce rapport... Alors, Eros Thanatos, c'est pas un mythe antique, hein, c'est un mythe freudien, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et comme les médecins doivent, si vous voulez, préserver la santé de leurs patients, les artistes, en essayant de créer des objets avec un fort pouvoir esthétique et symbolique, essaye de transcender les générations et de passer au-delà de la mort. Après, le sujet de l'érotisme, de la sexualité, c'est un sujet qu'on trouve dans les premiers âges, des premières œuvres d'art qui ont été découvertes il y a 40 000 ans, des petites idoles dans des tombes.
Oui, les vulves,
absolument,
gravées sur les murs de Lascaux ou d'autres grottes.
Il n'y a pas beaucoup de sujets différents. Hein. Et puis aussi, il y a le goût des artistes et des médecins pour l'anatomie. Les artistes et les médecins sont les premiers à avoir disséqué, parce qu'il y a ce goût de l'obsession. l'observation de la représentation du corps qui est propre.
Caravage. Voilà, je pense au Caravage.
Absolument. Il y a Rembrandt a livré une grande leçon d'anatomie aussi en peinture. C'est des sujets qui sont propres à ces deux métiers. Et les deux, voilà, ont peut-être un rapport au transcendantal, à la mortalité qui est particulièrement prégnant.
Bien. Bon, alors ça, c'est votre choix. Vous décidez à un moment donné de devenir commissaire-priseur. Mais en fait, déjà, tout petit, vous aviez assisté à une vente. Et peut-être que ça a un peu marqué cette orientation aussi.
Ah, je m'en souviens très bien. C'était en Arles. J'avais 6 ou 7 ans.
Arles.
Oui, c'était la première vente aux enchères à laquelle j'ai assisté, où j'étais rentré dans cette salle où il y avait tous ces cadres dorés, éblouissants. Et puis, quand on est petit, on veut toujours savoir quelle est l'œuvre d'art la plus importante. Et je me souviens, c'était un Félix Yem. Félix Yem, c'est un artiste orientaliste qui peignait.
Qui a un très beau musée.
Il y a un très beau musée aussi.
À côté de Marseille,
il peint Marseille, il peint Istanbul, il peint Constantinople, et c'est aussi en art que j'ai découvert l'abstraction. Ça m'avait beaucoup étonné, parce que quand on est enfant, on voit un grand tableau. Alors il n'y avait pas un Mondrian, un Kandinsky ou un Malevitch, hein, mais c'était un Georges Mathieu. Georges Mathieu, c'est un très grand artiste français, abstrait, et je voyais cette espèce de gribouille, et je me demandais comment ça pouvait autant intéresser les adultes. Et puis depuis, j'ai beaucoup appris à l'aimer.
Georges Mathieu. On va presque terminer cette partie-là, si vous le voulez bien. Juste ce que j'aurais voulu évoquer avec vous, c'est que cet amour, enfin en tout cas cette découverte assez jeune de la vente aux enchères, vous a amené à vous intéresser un peu effectivement à la peinture, petit à petit, progressivement, jusqu'à engager des études de droit qui vous mèneront au métier que vous faites aujourd'hui. Mais vous m'avez cité le nom de Raphaël Ponson.
Ah oui, j'ai un lien de parenté avec cet artiste, qui est un artiste académique provençal. J'avais eu la chance de pouvoir voir des tableaux. Commissaire-priseur, si vous voulez, il y a aussi un rapport un petit peu physique avec la matière picturale. C'est pas comme dans un musée où, évidemment, on ne peut pas toucher les œuvres. Moi, je dois tous les jours toucher les œuvres, essayer de voir si elles ont été restaurées.
Parfois les décadrer.
Voilà, les décadrer, essayer de retrouver les signatures qui peuvent être mangées un petit peu par le cadre. Et il est important d'avoir une étude attentive, des petits rayons de blanc dans l'écume des vagues. Il y a un rapport un peu peut-être plus physique qu'un conservateur. Je vous laisse apprécier
tout de suite à l'aise.
Ah, bien sûr.
Merci beaucoup, Jacques.
Et avec la peinture. Oui, donc, j'ai eu la chance de connaître les ventes aux enchères très jeune. Après, je m'étais pas. J'avais pas décidé de devenir commissaire-priseur à 6 ans, absolument pas. C'est devenu beaucoup plus tard, mais je savais que ça existait.
C'est venu après, on va continuer à en parler avec vous. On écoute un tout petit peu de musique, on se retrouve juste derrière ce morceau des Beatles, ce que vous n'avez pas connu, parce que vous êtes très jeune, mais bon, qui existait avant vous, comme d'autres artistes. Merci.
Wednesday morning papers didn't come.
Jacques Faurent est notre invité aujourd'hui. Il est commissaire-priseur à Montpellier. Il est tout jeune, il est installé. On a le droit de le dire?
Bien sûr.
Oui, bon, place de la Comédie. C'est quoi l'adresse exacte?
C'est aux deux rues de Verdun.
Deux rues de Verdun, c'est juste au-dessus d'un magasin. Qui vend beaucoup de choses et qui se donne sur le
côté du manège.
À côté du manège, voilà. Et c'est vrai que bah, c'est d'abord un très bel endroit pour commencer et que vous avez effectivement de très belles choses à la vente. Alors, je dis que vous êtes très jeune, on peut dire votre âge?
Oui. J'ai 33 ans.
33 ans, voilà. Donc c'est un tout début de carrière, mais très prometteuse parce que nous allons le voir, vous avez quand même fait quelques belles découvertes récemment qui ont ému la presse. Cela dit, tiens, pour commencer, vous avez porté votre marteau, il a une histoire, vous allez nous en parler tout de suite, et puis après on verra comment les œuvres vous parviennent.
Ça, c'est ma baguette magique de commissaire-priseur, c'est celle qui permet un petit peu d'animer les ventes. Alors, ce marteau, il a une particularité. D'habitude, les commissaires-priseurs ont un marteau d'ivoire. Alors, moi, je suis pas du tout contre la tradition, hein, c'est mon métier. Mais aujourd'hui, la législation a changé et il est un peu inenvisageable de continuer
à utiliser de l'ivoire.
À utiliser de l'ivoire. Alors, j'ai préféré avoir un marteau qui soit une œuvre d'art que j'ai demandé à un artiste de Montpellier qui s'appelle Mathieu Lucas, qui me l'a fait exprès. Et j'aimais l'idée d'avoir une œuvre d'art pour passer d'autres œuvres d'art. Et puis, comme je suis très attaché à ma région, je suis très heureux d'avoir un marteau qui a été fait par un artiste de Montpellier.
Alors, on va demander à Yann de se préparer parce que je vais demander à Jacques de donner un coup de marteau. Donc, au niveau du son, il faut quand même qu'il soit prévenu. Allez. Adjugé vendu pour la deuxième partie de cette émission. Donc, je vous disais tout à l'heure que c'est sûrement très compliqué, et on en a un tout petit peu évoqué, de connaître, d'avoir un panel de connaissances suffisant, parce qu'on parle beaucoup de tableaux, mais c'est une quantité de choses. Ce sont des livres anciens, c'est de l'argenterie, ce sont des bijoux, ce sont des costumes, c'est invraisemblable tout ce que vous pouvez recevoir ou à la vente.
Alors, on est loin de tout connaître, évidemment. Déjà aussi, on s'est cherché, ça fait partie aussi de notre formation, et c'est une formation assez longue, hein, ça représente quand même 9 ans d'études. Et là, je crois que notre formation à l'école du Louvre nous sert beaucoup, puisque c'est la seule école dans laquelle on envisage la création artistique d'un point de vue à la fois historique et géographique, mm-hmm. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on fait d'abord l'Antiquité, jusqu'à la chute de Rome, après on fait jusqu'à la chute de Constantinople, et puis après l'époque contemporaine. Et ça permet, si vous voulez, d'avoir des jalons un petit peu partout dans le monde et un peu à toutes les époques, pour essayer de replacer l'objet dans son contexte. Et une fois qu'on replace l'objet dans son contexte, avec Internet, avec les livres, avec l'assistance d'experts de qualité, on arrive quand même à pouvoir retrouver la trace d'un objet dans notre patrimoine.
Alors, c'est vrai que Internet vous a changé la vie.
Ça a tout changé. Moi, c'est grâce à Internet que j'ai pu revenir dans la région, puisque je suis né à Montpellier. Mais il était un petit peu inenvisageable il y a une dizaine d'années de présenter des objets de qualité, des ventes d'objets choisis, limitées à la clientèle de la région. Aujourd'hui, on vend 60% des objets qu'on présente à l'étranger. Donc, ça a complètement. Voilà, on arrive à des ventes aux enchères qui sont vues jusqu'à 900 000 fois sur Internet. Ça représente 3 fois la population de la métropole.
Ça, c'est un aspect, mais c'est aussi l'aspect connaissance des objets. C'est-à-dire
absolument.
Que là, vous avez une source, un fleuve d'indications et de connaissances quand vous tombez sur un objet qui peut vous poser problème ou que vous
bien
situez.
Absolument. Mais c'est comme Doctissimo. C'est pas en tapant le nom de sa maladie sur Internet qu'on va pouvoir se soigner forcément. Pour les objets, c'est un petit peu pareil. Il y a des petites nuances qui peuvent faire de très grosses différences.
Mais
évidemment,
puisque Internet, vous avez quand même la base, vous pouvez quand même savoir connaître ces petites différences qui font que c'est pas là.
C'est une chance, oui, c'est une chance.
Enfin, c'est une chance, c'est une technique, une technologie. Est-ce que l'IA va faire quelque chose là-dedans, un jour, peut jouer un rôle? Parce qu'on sait qu'en médecine, ça va être le cas.
Je pense qu'on ne peut pas prédire à quel point l'IA va changer notre façon de travailler, mais l'IA va quand même avoir certaines difficultés à reconnaître un vrai d'un faux pour le moment. Et puis, moi, les faux, c'est ce qui constitue aussi mon travail. Mais il y a énormément de faux qui circulent. S'il n'y avait pas de faux, mon métier n'aurait pas véritablement de sens. Et notre métier, c'est aussi donc de garantir l'authenticité des objets. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle soit prête à le faire tout de suite.
J'ai précisé intelligence artificielle, j'allais le faire parce que je fais la maline en disant IA, mais c'est l'intelligence artificielle, c'est ce dont on nous parle beaucoup en ce moment. Alors, on en revient au rôle des experts. Le commissaire-priseur est donc un généraliste, mais c'est pareil, les experts, ils sont spécialisés dans certaines matières. Vous n'allez pas faire expertiser un tableau dont vous pensez qu'il est de tel peintre du 19e siècle à quelqu'un qui est un spécialiste de l'argenterie. Il vous faut un réseau, un carnet d'adresses incroyable.
Absolument. Alors nous, théoriquement, on est expert en tout. Donc expert en tout, ça veut dire un petit peu expert en rien, mais avec mon associé, on a évidemment chacun nos domaines de prédilection dans lesquels on va toujours travailler sans expert, comme par exemple l'art moderne, le vin, l'horlogerie. Moi, c'est des domaines que j'affectionne particulièrement, ou les bijoux pour sa part. Après, par exemple, si on a un diamant de très grosse qualité, il va falloir le passer dans un laboratoire parce qu'une toute petite différence de couleur pourrait tout à fait changer l'estimation. Pour la porcelaine chinoise, on a appris à lire quelques caractères qui sont ceux des plus grands empereurs qui ont régné sur la Chine, mais pour d'autres, évidemment, il va falloir faire appel à un expert qui est spécialisé dans la lecture de ce genre de caractères. Ou ça peut être aussi pour les poupées, par exemple, qui a un monde très vaste. Donc on essaie de travailler avec des experts qu'on a au bout de 10 ans quand même d'exercice de ce métier, en tant que collaborateur puis commissaire priseur. On a quand même un beau réseau d'experts, pour la plupart parisiens, à qui on confie les objets qui nous paraissent les plus exceptionnels.
Jacques, on a prévu une deuxième partie un petit peu plus courte, parce que la troisième va être passionnante, celle-là l'est déjà, mais va être encore plus passionnante à la mesure où vous allez nous raconter des histoires d'objets. Est-ce que vous avez, c'est la dernière question que je vous poserai là, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu un chasseur de trésors?
C'est vraiment comme ça que j'envisage le métier, parce que commissaire-priseur, c'est un mot composé, où il y a priseur qui est le mot qui intéresse beaucoup les clients, hein, c'est donner la valeur des choses, même si je pense que le bon commissaire-priseur, c'est pas celui qui donne la bonne estimation, c'est plutôt celui qui va mieux raconter l'histoire et le vendre le plus cher. Mais il y a aussi commissaire, et commissaire, c'est celui qui a une loupe, c'est celui qui mène l'enquête, qui a un petit rat de bibliothèque et qui va essayer d'aller chasser le trésor, effectivement, d'ouvrir un placard et puis de sortir, c'était l'année dernière, un Salvador Dali d'une armoire.
Eh bien, on va en parler tout à l'heure si vous le voulez bien. On prévient Yann parce qu'on va faire que cette deuxième partie soit adjugée vendue. Adjugée vendue? Un petit coup de marteau? Et on se retrouve tout à l'heure, après la musique et le disque habituel, pour une partie passionnante parce qu'elle sera un peu plus longue, mais il y aura vraiment l'histoire de plein d'objets qui vous ont touché et que vous avez su découvrir.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Jacques Faran est avec nous aujourd'hui. Il est commissaire-priseur, jeune commissaire-priseur, installé sur la place de la Comédie.
Absolument.
Une étude qui fonctionne bien. Et nous allons voir qu'il a su trouver, découvrir de très beaux objets, de faire déjà de très belles ventes dans un très joli début de carrière, on peut pas dire. Et puis Yann, qui lui nous supporte, est à la technique et assure donc tout l'aspect matériel, on va dire, de cette émission en venant de l'expo. Jacques, vous avez quelques bons souvenirs. Et on va commencer par ça. On s'est donné une partie plus longue justement parce que je sais que vous aimez parler de tous ces objets que vous avez trouvés, découverts et vendus.
Alors oui, la première découverte vraiment qui m'a beaucoup animé, c'était à Vernon, en Normandie. Lorsqu'on est commissaire-priseur, il faut faire après 2 ans de formation professionnelle. Donc j'avais choisi d'aller en Normandie, puisqu'on devait aussi se former au matériel agricole, etc. Donc j'étais pas parti en Normandie pour trouver des trésors, mais plutôt pour apprendre le fond de mon métier. Et un jour, un client nous apporte un tableau qui était pas encadré, qui était simplement sur un châssis avec une signature qui était parfaitement illisible pour moi parce qu'elle était en cyrillique. Et ce monsieur m'a demandé de lui acheter son tableau pour 300 euros. Voilà. Alors effectivement, je n'ai absolument pas le droit d'acheter les œuvres, donc je lui ai dit que ce serait pas possible, mais que 300 euros, j'étais quasiment sûr qu'on y arriverait, même si j'arrivais pas véritablement à lire la signature. C'est un tableau, ça m'avait pris le week-end à essayer de chercher ce que c'était. Et puis j'avais fini par aller regarder l'alphabet en cyrillique pour pouvoir identifier chaque caractère.
Vous parlez des idéogrammes chinois tout à l'heure, maintenant l'alphabet en cyrillique.
C'était important, parce que la signature, c'est quand même toujours assez important pour un tableau, surtout que le châssis était ancien, c'était quand même un châssis à clé. Les derrières des tableaux parlent parfois autant que les faces, parce que ça donne un peu une indication sur le matériel qui est utilisé par l'artiste. Et c'est un tableau de Constantin Korovin. Constantin Korovin, c'est le plus grand impressionniste russe. Alors, il a une carrière ensuite à Paris, puisqu'il a fui évidemment la révolution bolchevique, des tableaux qui sont appréciés des collectionneurs. Mais ça, c'était un tableau qui avait été peint en Russie. Avant son départ, qui était la période véritablement la plus recherchée. Et ce tableau, qui datait des années 20, qui appartenu à des Russes blancs. Donc, des Russes blancs, c'est les Russes qui ont quitté la Russie au moment de la Révolution. Il a fait les gros titres de la presse et on avait marqué voilà que ce tableau, il s'est vendu quand même 560 000 euros aux enchères. Donc effectivement, je pense que le client a eu raison de nous le confier, de ne pas le vendre pour 300 euros.
De vous le confier, parce que vous avez fait les recherches nécessaires. Ça peut être un très beau tableau de quelqu'un qui n'est pas connu du tout. Et... Oui,
j'ai quand même pas peint le tableau. Hein. Le tableau était magnifique. Oui. Mais on a fait que le mettre dans la lumière. Mais après, il a fallu effectivement le faire connaître à tous les grands acheteurs internationaux qui avaient pris leur jet privé pour venir à Vernon, hein, petite ville de Normandie.
De dire que ça a fait le buzz, évidemment, dans la presse.
Et voilà, et ce qui m'a permis d'être après recruté dans une étude qui était des professionnels de la chasse au trésor pour essayer de trouver de nouvelles petites merveilles.
Donc là, vous êtes passé du matériel agricole que
Absolument.
Vous étiez allé chercher à Vernon vers autre chose. Et alors dans cette étude-là, est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes aussi?
Ah, il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont... Alors, c'est complètement indépendant du prix, mais par exemple, il y avait un carnet aussi, un amicorum de la cour de Monaco qui aujourd'hui a été acheté par le musée de la Principauté. C'est toujours quand même assez valorisant pour les familles d'avoir une œuvre qui finisse dans une institution publique, même s'il faut essayer d'en obtenir pour eux le meilleur prix puisqu'on est là pour ça. Différentes pièces qui m'ont beaucoup marqué. Bon, celle-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais aussi il y avait un coffre du cardinal Mazarin qui était dans un petit pavillon qui était le coffre à jouer de Louis XIV. Qui s'est vendu quand même 7,5 millions d'euros. Donc parfois il y a quand même des histoires absolument extraordinaires autour d'objets dont on perd la trace. Non, oui, on l'a vu, mais je sais pas, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est une pièce exceptionnelle.
Mais c'est passé, j'allais dire entre vos mains d'une certaine façon.
Oh, j'ai vu, oui. Absolument.
C'est incroyable. Alors, vous avez donc parlé de ce fameux tableau que là, pour le coup, vous avez trouvé. Vous m'avez dit une tenue de travesti. Vous m'avez parlé d'une tenue de travesti. C'est pour montrer la variété.
Absolument.
Parce que entre le Corovine et la tenue de travesti, c'est vrai qu'il y a quand même il y a un monde.
Absolument. Et depuis qu'on a ouvert l'étude à Montpellier, on a eu entre les mains des objets absolument sensationnels, dont alors cette tenue de travesti qui était fantastique, parce que c'était une tenue de clown triste. En fait, c'était une tenue aquatique qui était faite de petits sequins, et en essayant de retrouver donc la provenance de l'objet, parce que essayer d'expertiser un objet, c'est pas qu'expertiser l'objet, c'est expertiser toute l'histoire autour de cet objet, à qui il a appartenu, parce que parfois c'est presque plus important, les anciens propriétaires ont une importance presque aussi que l'artiste qui l'a conçu.
Donc quand vous découvrez quelque chose, vous aimez bien, par exemple, quand vous allez dans une famille qui vous dit, voilà, on a une statue, on a quelque chose à vendre, est-ce que vous voulez venir voir, vous aimez bien qu'on vous raconte l'histoire de l'objet.
Comment l'avez-vous eu,
d'où ça vient, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à cet objet, est-ce que vous avez des papiers le concernant, c'est ça.
Et puis il faut essayer d'aller au-delà de la tradition familiale, parce que les histoires se déforment évidemment avec le temps. Il faut essayer vraiment d'avoir des preuves objectives, parce que nous, on doit défendre l'intérêt de nos vendeurs, mais on doit être parfaitement transparent vis-à-vis des acheteurs. Donc on peut raconter des histoires qui sont uniquement exactes. Et cette tenue de travesti,
Est-ce qu'il faut garder par exemple les écrins? Est-ce qu'il faut garder les boîtes? Je pense à des jouets anciens. Je pense par exemple à ces premiers jouets anciens en tôle, et il y a la boîte.
Bien sûr, les Dinky Toys, par exemple, qui sont des petites voitures miniatures. La boîte, ça peut représenter jusqu'à un tiers de la valeur de.
D'accord.
Idem
pour les écrins, des bijoux. Enfin.
Si c'est des très grandes maisons, les écrins, ça va avoir une importance. Si c'est un bijoutier qui est plus anonyme, on va rester vraiment sur la qualité de l'objet lui-même. Vraiment, ça dépend des spécialités.
En tout cas, ne rien jeter qui puisse trouver avec l'objet.
Moi, j'adore quand j'adore rien, parce que là, c'est vraiment la véritable chasse au trésor. On peut remettre la main sur des indices. Ça peut être la facture, ça peut être une lettre aussi qui accompagne l'objet pour dire cet objet m'a été offert par telle ou telle personne. Là, on avait on a des cuillères qui ont été offertes par le tsar de Russie. Alors moi, la lettre du tsar de Russie a presque plus de valeur que les cuillères elles-mêmes.
Voilà. On revient à la tenue de travesti.
Alors la tenue de travesti, elle appartenait à un ancien danseur du cabaret de Madame Arthur, qui est un cabaret d'entre-deux-guerres assez important à Paris, un des premiers cabarets travestis. Et à l'époque où le danseur portait ce costume-là, le pianiste était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg avait fait ses armes au piano chez Madame Arthur. Donc il y avait tout un univers, c'était un objet qui racontait à lui-même une histoire, et on entendait presque le poinçonneur des lilas lorsqu'on faisait vibrer les sequins du costume. Et ce costume aussi a fini dans une institution publique, puisqu'il a été acheté par le musée des Arts Forains, et il est aujourd'hui exposé à Paris. Et en parlant de costume, là on a un petit trésor que vous avez vu, Maria.
Oui, c'est vrai, je l'ai vu.
Qui est une capote de Paseo du matador El Papa Negro, qui est un grand matador espagnol qui était actif à Oran, donc en Afrique du Nord, avant Manolete, hein, c'est vraiment les années 30. Donc c'est un costume qui est entièrement brodé de fils d'argent, vraiment un costume assez spectaculaire, qui, je suis sûr, intéressera les aficionados de la région.
Mais qui a une histoire.
Oui, parce qu'il appartenait à El Papa Negro.
Mais est-ce que c'est pas cette cape qu'il portait le jour?
Alors, je ne sais pas si c'était ce jour-là, mais effectivement, pour rajouter au romantisme, il est mort aux arènes. Il est mort aux arènes, effectivement.
Il est mort dans l'arène.
Donc, on ne peut pas porter la capote, ça porterait malheur.
Plus personne ne peut l'utiliser.
Ça porterait malheur.
C'est vrai que vous avez aussi des origines, je vais le dire, hein, catalanes.
Absolument.
Donc c'est des choses que vous connaissez bien, et effectivement c'est un art qui vous permet d'avoir ces repères de ça porte malheur, ça porte pas malheur, la capote il faut plus la porter.
Alors on me l'a dit. Moi je l'ignorais. C'est une fois qu'on a eu le costume qu'on a commencé à faire des recherches, des recherches là-dessus.
La tenue travesti. Vous m'avez parlé d'une étude de la coupole du Panthéon.
Ah, c'était le premier tableau qu'on a présenté lorsqu'on a ouvert l'étude, un tableau assez extraordinaire, puisque c'était...
Alors le Panthéon, on précise que c'est à Paris.
Voilà, hein. Le Panthéon à Paris, donc l'ancienne église Sainte-Geneviève, qui aujourd'hui a la patrie, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est ça. Donc c'était l'étude qui avait été commandée par Napoléon Bonaparte à Antoine Jean Gros, qui est devenu ensuite le Baron Gros, qui est donc le peintre empire le plus important avec David. Et donc Napoléon avait demandé qu'il y ait une représentation des quatre grandes dynasties ayant régné sur la France, sur la coupole. Donc je vais vous faire réviser, les Mérovingiens avec Clovis, les Carolingiens avec Charlemagne, les Capétiens avec Louis IX, évidemment les Bonaparte avec Bonaparte. Donc là, on avait l'étude préparatoire avec Charlemagne et Hildegarde, trouvé tableau extraordinaire d'1m20 par 1m20, trouvé en Catalogne, qui a été présenté aux enchères.
Absolument. Oui, alors donc ça, j'imagine que c'est quelque chose d'assez unique, parce qu'il n'y en a pas tant que ça.
Ça, c'est extraordinaire, parce que des tableaux comme ça, on peut retrouver toute la trace, tous les propriétaires, les uns après les autres, qui ont eu entre les mains cette œuvre. En plus, la coupole telle qu'elle est présentée aujourd'hui a été achevée par Charles X. Donc Charles X étant un Bourbon, il a évidemment voulu exclure Bonaparte de la représentation.
Vous n'aviez pas cité les Bourbons, hein, mais...
Voilà, les Capétiens qui sont dans la suite des Bourbons. Les Bourbons dans la suite des Capétiens. Et la coupole a été complètement remaniée. Donc là, on a une étude préparatoire qui n'est absolument pas celle qui est présentée aujourd'hui au Panthéon, mais qui est le projet initial. Projet initial
à
qui
l'origine.
Est encore plus intéressant, puisque c'est un projet qui est empire et c'est pas un projet qui est restauration. Donc on voit l'œuvre en évolution. Et donc en changeant la composition, le peintre a changé le placement des personnages. Donc Charlemagne était tourné vers la gauche sur notre tableau, maintenant il est tourné vers la droite. Donc on voit que les œuvres d'art sont des œuvres en mouvement et on arrive à trouver les morceaux du puzzle.
Quand on dit que cet endroit est dédié aux grands hommes de la nation ou de la patrie, c'est hommes avec un grand H, bien sûr, puisque les femmes y sont maintenant admises. J'avais besoin de le dire, je l'ai dit.
Vous avez bien fait.
Ensuite, plus récemment, une tête donc d'un artiste vietnamien.
Ah, ça c'est la plus belle œuvre qu'on ait trouvée à l'étude. C'était un inventaire absolument incroyable. Deux œuvres d'un artiste qui s'appelle Vu Cao Dam, qui est un des trois plus grands artistes vietnamiens du XXe siècle. Artiste qui a été formé par un personnage qui s'appelle Victor Tardieu, qui a en fait ouvert une école de peinture occidentale à Hanoï, où ils ont fait un espèce de syncrétisme entre les techniques asiatiques de peinture sur soie et la modernité matissienne. Et dans un appartement à Montpellier, nous avons découvert sur une cheminée une sculpture assez fantastique.
Une pureté.
Vous l'avez vu, elle est belle. Hein,
exceptionnelle.
Magnifique.
Alors magnifique. Moi, je l'ai vu, je vais le préciser, je l'ai vu sur votre catalogue.
Oui.
Parce que vous faites, on en parlera après, la publicité évidemment de ces ventes, et vous avez des catalogues à tomber par terre.
C'est important, la qualité des photos, je pense, aujourd'hui. En plus, en vendant beaucoup d'œuvres à l'étranger, les photos, ça a vraiment une véritable importance. Vous aurez la chance de la voir, puisqu'elle va probablement être exposée au musée Cernucci pour une rétrospective à Paris sur Vu Cao Dam. Donc, c'est une tête modelée en argile. Alors, pourquoi c'était intéressant qu'elle soit en argile? Parce que c'est une œuvre qui était réalisée en 1939. Et le peintre était surtout connu pour être sculpteur à l'époque. Il faisait des bronzes. Il avait fait le portrait de l'empereur Bao Dai. Et pendant la guerre, il se retrouve privé de bronze à cause de la Seconde Guerre mondiale. En plus, il faut imaginer le contexte avec un homme qui vient du Vietnam pour faire carrière à Paris et qui se retrouve dans un conflit qui le dépasse complètement, privé de la matière principale de son travail et qui va travailler sur l'argile parce qu'il n'a pas le choix. Et il y avait encore les empreintes digitales de l'artiste. Sur l'argile, c'est encore plus beau parce que l'argile, c'est modelé avec les mains de l'artiste alors que les bronzes, si vous voulez, c'est coulé à travers une matrice.
Là, il y a le toucher, voilà, il y a une présence humaine.
C'était vraiment magnifique, la plus grande. En plus, elle appartenait à l'ancien gouverneur de l'Indochine. Bon, ça, on l'a appris par la suite. Donc, la provenance était aussi assez exceptionnelle. Et donc, en fouillant là, on a fouillé, retourné l'appartement.
Ça, c'est le côté chasseur de trésors et inspecteur.
Quand on trouve une œuvre comme ça, on essaie de voir s'il n'y en a pas une autre. Et il y en avait une autre, cachée à l'abri de la lumière, qui était une peinture sur soie du même artiste. Fantastique, un nu sur fond vert, qui portait quatre signatures, des signatures en caractère latin, des signatures en caractère indonésien, des cachets purement asiatiques, qui est un petit chef-d'œuvre de l'artiste qu'on a vendu pour 275 000 euros au marteau.
Voilà, une œuvre magnifique. Alors c'était très intéressant parce que vous avez dit que c'était un mélange effectivement d'art oriental, vietnamien hein, et matissien, c'est-à-dire de Matisse. Et c'est vrai que dans cette œuvre-là, il y a cette espèce de souffle matissien.
Ah, c'est ce qui m'a frappé, voilà, le profil très, et puis à la fois la technique qui était dans de la peinture sur soie qui a une finesse particulière, et la chance qu'on a eue, c'est que la famille faisait pas du tout attention à cette œuvre là qui avait d'ailleurs, il faut le dire, il y a une dizaine d'années, pas tellement de valeur commerciale sur le marché.
Alors ça, on va en parler, parce qu'il y a des choses choses qui montent. Il y a des modes, j'allais dire, et puis il y a des choses qu'on découvre et qui deviennent très vous avez par exemple des petits miroirs, me semble-t-il, de mi-espelte, c'est ça ?
Mi-espelte, oui, absolument.
Mi-espelte. Et j'avoue que moi, ça me parle peu, mais ça a une cote incroyable. Comme à un moment donné, les galets avaient une cote incroyable. Alors les galets, ce sont des vases qui ont été faits par un artiste qui s'appelle Galet.
Émile Galet, c'est
voilà,
ça.
En pâte de verre.
Art nouveau.
Donc je précise
c'est ça. Pour ça. Alors mi-espelte, c'est amusant parce que c'est une artiste de Lunel. Qui a été très, très active dans les années 60-70. Elle a été formée par Lynn Vautrin. Lynn Vautrin, c'est une des grandes artistes françaises qui a obtenu des prix absolument délirants. Et un peu tous les artistes qui ont tourné autour, après, ont été un petit peu remis dans la lumière. Et Mi-espelte, c'était une artiste qui signait jamais ses œuvres, qui avait une certaine modestie dans son travail, mais un travail de l'or, du craquelé, des émaux qui est absolument fantastique. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la région. Ça se vendait effectivement, c'était tout à fait achetable comme œuvre décorative. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une œuvre d'art, et donc ça a une estimation et un engouement qui est tout à fait différent.
Alors sur ça, moi je dis toujours mi-espelte, mais c'est mi-espelte. Je dis mi-espelte parce que je connais une artiste qui s'appelle mi-espelte, donc du coup j'ai un petit souci avec ça. Et mi-espelte, moi où je l'ai découvert, et je vais vous le dire, hein, je vous le cache pas, je regarde très souvent parce que j'aime beaucoup les objets à faire conclue quand j'ai un petit peu de temps. Hein, donc quand je dis très souvent, c'est peut-être pas tous les jours, mais bon, qui est cette émission qui passe sur France 2 l'après-midi. Et je voulais savoir quel était votre point de vue sur ce type d'admission de vulgarisation. Mais je trouve que c'est une sorte de vulgarisation relativement intelligente quand même. On apprend plein de choses.
Alors c'était c'est une des émissions dont on me parle le plus. c'est pas l'émission que je regarde le plus pour ma part, mais je trouve que c'est une très bonne émission parce que mes confrères et consoeurs font un véritable. Alors il y a plusieurs parties dans l'émission. Moi je parle de la partie expertise qui est réalisée par des commissaires-priseurs qui sont véritablement diplômés commissaires-priseurs, qui pratiquent le métier de commissaire-priseur et qui essayent de raconter l'histoire des objets. Après il y a une autre partie dans l'émission qui est ce qu'ils appellent la vente aux enchères, qui n'est absolument pas une vente aux enchères, et avec évidemment
puisque tous les acheteurs sont brocanteurs,
voilà,
ou antiquaires.
Tous les acheteurs sont antiquaires. C'est pas une vente aux enchères publique parce qu'on ne peut pas venir mettre des enchères si on fait pas partie des quatre présents. Mmh. Et les prix qui sont obtenus sont non. Pas véritablement de lien avec le marché, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'évidemment il y a une partie, bon, c'est une émission, il faut que ça plaise, donc il y a des petits objets qui font des prix un peu mirobolants, et puis parfois il y a des choses qui sont vraiment assez exceptionnelles, comme je me souviens un buste de Chaudet qui méritait peut-être une attention un peu plus particulière. Vous voyez, quatre enchérisseurs, quand je vous donne un petit peu les chiffres, parce que moi j'ai toutes les statistiques, si vous voulez, de visionnage des ventes aux enchères, quand on voit des ventes qui ont 900 000 affichages, c'est pas tout à fait pareil qu'une vente aux enchères où vous avez quatre personnes dans la salle.
D'accord. Alors quand vous dites 900 000 affichages, vous faites allusion à l'évolution de votre métier, puisque vous travaillez maintenant beaucoup par Internet. Alors à l'origine d'une vente aux enchères, seuls les gens qui étaient dans la salle pouvaient acheter. Le téléphone est arrivé. Donc il y a eu l'évolution téléphonique et les photos, et ensuite maintenant c'est Internet. Alors on peut parler de cette évolution là.
Alors j'ai pas connu les enchères avant Internet d'un point de vue professionnel. Quand je suis arrivé à Vernon, ils commençaient un petit peu à faire des ventes aux enchères avec Internet, et puis c'est un peu ma génération, forcément on a beaucoup plus accéléré la cadence. Maintenant ils font des ventes que sur Internet, enfin avec toujours systématiquement une mise en ligne. Évidemment nous on adore avoir la salle qui est remplie et des enchères dans la salle, ça fait partie du plaisir de notre métier, et c'est encore le cas, je vous rassure, hein, il y a quand même de nombreuses personnes qui se déplacent.
Et puis il y a un côté spectacle, voilà. Il y a des commissaires-priseurs qui sont très drôles, qui sont, qui ont plein d'humour, qui... Il y a un côté théâtral quand même là-dedans.
Sur 5 heures de vente, il faut essayer d'un petit peu animer la, animer les échanges. Et donc, ce qui a changé, je pense, c'est la globalisation du marché, le fait qu'on puisse obtenir un prix très important pour une œuvre vietnamienne finalement, à Hanoï, que l'œuvre soit vendue à Montpellier, à Paris, à New York, ça change pas grand chose, si vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il soit au courant qu'il y ait la vente. Bon, on s'était battu, on avait eu quand même la couverture de la Gazette Drouot, donc ça avait quand même un petit peu aidé à la publicité. Mais voilà, il faut essayer de mettre les objets dans la lumière pour essayer de toucher tous les clients potentiels, et on a plein de billets pour ça.
Alors moi, je vais vous poser une question toute bête. Comment on fait pour accorder ce qui se passe dans la salle, ce qui se passe au téléphone et ce qui se passe sur Internet ? Il faut que vous ayez, j'allais dire, pratiquement un secrétariat ou un standard qui permette de...
Vous voulez connaître tous les arcanes,
oui,
et tous les secrets,
oui,
de notre métier.
Oui, oui.
Non, alors voilà, on a évidemment des... Ça, c'est purement technique. On a des tablettes où il y a toutes les enchères simultanément qui s'affichent. Et on fait un métier un petit peu d'homme orchestre. Donc, il faut un petit peu essayer de...
Alors, qui voit ça ? Est-ce que c'est vous qui êtes avec votre marteau face...
Absolument.
À la salle ?
Oui.
C'est vous qui voyez tout ça ? Ou ça se passe dans une pièce à côté où les gens voient ce qui se passe ?
Non, tout le monde est dans la salle. Et puis, sur la tribune de vente, vous avez des écrans. Vous avez les enchères à la fois des différents sites internet, les enchères au téléphone qui sont portées par nos collaborateurs à voix haute, et puis les enchères dans la salle. Et avec un petit peu de pratique, et ben vous jonglez entre les différentes enchères.
Vous n'avez jamais eu affaire à un conflit entre deux acheteurs qui auraient acheté au même moment ?
Ça peut arriver, c'est pour ça qu'au coup de marteau, le coup de marteau, c'est un petit peu quand même le folklore de la vente. Ça n'a pas de réalité légale. Il y a transfert de propriété à partir du prononcé du mot adjugé. Le prononcé du mot adjugé transfère la propriété entre le vendeur et l'acheteur. À partir du moment où il y a prononcé du mot adjugé, les enchères sont terminées et c'est irrévocable.
Donc vous dites adjugé vendu et vous donnez le coup de marteau après.
Généralement, c'est plutôt l'inverse.
Vous tapez, vous dites adjugé vendu. D'accord. Il a une histoire, ce coup de marteau ? Puisque vous me dites que c'est finalement adjugé vendu qui fait que la vente est faite.
Je crois que ça vient des sergents à verge, qui étaient les ancêtres des commissaires-priseurs qui se baladaient avec un grand bâton dans les campagnes pour faire les ventes aux enchères à l'époque au XVIe siècle. Je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûr.
D'accord, c'est un puits de culture. Moi, j'aime beaucoup Jacques Farran parce qu'il est tout jeune, mais il sait un nombre de choses absolument incroyables. On peut en être totalement complexé parce qu'à côté, moi, je vous avoue que je suis émerveillée par tout ce que vous me dites. Et puis, alors, il y a le traditionnel catalogue papier. Et j'en parle parce que vous, c'est presque une œuvre d'art. Déjà, en lui-même, c'est un très beau catalogue.
Non, vous êtes gentil, mais c'est vrai qu'on est... Alors, on aime la modernité, mais on aime quand même la tradition, et une jolie vente aux enchères, c'est sympa d'avoir quand même un catalogue, à la fois pour les clients qui nous font confiance, pour mettre leurs œuvres dans la lumière, et aussi pour les acheteurs qui sont toujours contents d'avoir la trace de l'œuvre qu'ils ont achetée dans un catalogue. Et surtout, voilà, on peut à la fois écrire, faire de jolies photos, mais le catalogue, il a cet aspect physique, mais il a aussi l'aspect numérique.
Oui.
Il est à la fois, voilà, sur un Calameo Internet.
Mais la qualité du catalogue est magnifique.
Parce que vous êtes gentil.
Le graphisme de Farran, bon, est très classique, mais en même temps moderne. Enfin, ça donne envie. Et je voulais aussi vous demander si, par exemple, il faut garder ce catalogue quand on achète un objet sur une vente aux enchères qui est représenté dans votre catalogue. Un objet qui est représenté dans votre catalogue, je vais tout remettre dans l'ordre, dans une vente aux enchères. Est-ce que c'est bien de garder le catalogue qui peut aller avec l'objet à un moment donné si celui-ci doit être revendu ?
Oui, ça rajoute une provenance. C'est-à-dire que comme ça, vous avez la trace de l'objet à travers les époques. Donc, c'est une preuve absolue. Et puis après, d'un point de vue purement fiscal, pour parler un petit peu de droit, au bout de 22 ans de détention, ben, vous n'avez plus d'impôts sur les plus-values à payer lorsque vous vendez une œuvre d'art. Donc c'est aussi une preuve de possession de longue durée d'une œuvre, potentiellement. Donc ça a plusieurs intérêts, effectivement.
Prochaine vente.
Alors on a une vente en cours là de vins et spiritueux, qui est une de mes passions, autant le boire que les décrire.
Mais sinon les boire avant de les vendre.
Bien sûr, c'est pas les mêmes. La prochaine vente, c'est le 9 décembre à l'hôtel Métropole, oui, à Montpellier, qui sera une vente consacrée aux bijoux. Et puis notre prochaine grande vente, les phares, sera au mois de mai au Chiasma à Castelnau-le-Lez.
D'accord. Donc, ça, ce sont des ventes que vous ne faites pas dans un hôtel des ventes. Vous choisissez à chaque fois un lieu un peu...
Alors, je trouve que le même lieu n'est pas forcément bon pour les mêmes objets. Pour,
vous adaptez les lieux de vente aux objets.
Absolument.
Que vous présentez.
Le Chiasma Castelnau est une salle particulièrement muséale avec une grosse hauteur sur plafond, des murs blancs, des cimaises qui sont très neutres, qui je pense sont assez propices à l'exposition de tableaux, qui seraient moins propices à l'essayage de bagues.
Je vous remercie beaucoup, Jacques Farran. C'est déjà terminé. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. En tout cas, nous, on ne s'est pas ennuyé. Merci aussi à Yann qui était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite un très bon week-end. Diffusion, donc là, vous venez de l'entendre. Si vous voulez la réécouter, il y a des podcasts. Sinon, c'est le dimanche rediffusé à 20h. Au revoir à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous.
Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.